France Inter.
Éjszakában a legfontosabb, hogy most Brüsszel alkalmazkodjon a megváltozott helyzethez, hiszen új időszak kezdődik. Elsősorban a háború és a béke ügyében, meg a szankciók ügyében, ideje, hogy szankciókat kidobjuk az ablakon, és egy szankciómentes kapcsolatrendszert alakítsunk ki az oroszokkal.
C'est du hongrois, c'est Viktor Orban, hier dans la matinale de la radio publique hongroise. Le Premier ministre parle des sanctions contre la Russie et de la nouvelle période qui s'ouvre, dit-il, alors que son allié Donald Trump s'apprête à prendre les commandes des États-Unis. Le républicain a promis la fin de la guerre en Ukraine. Bruxelles doit s'adapter, affirme Orban. Il est temps de jeter par la fenêtre les sanctions. Depuis bientôt trois ans de guerre, les Européens ont déjà pris 15 trains de sanctions contre Moscou. Plus de 200 milliards d'actifs gelés, l'accès à la technologie entravé, les exportations de pétrole compliquées. La guerre n'a pas été stoppée, la Russie n'a pas été asphyxiée. Et pourtant, ces sanctions, elles fonctionnent. Rien qu'en 2023, Moscou a été privé d'une cinquantaine de milliards de dollars de revenus pétroliers. Une somme qui aurait permis, sinon, de recruter 1 million de soldats par an, a calculé l'économiste dissident Sergueï Gouriev, et d'acheter encore plus d'armes. Alors Sergueï Gouriev nous appelle à imaginer ce qui se serait passé sans les sanctions. Encore plus de vies auraient été perdues en Ukraine. La guerre aurait sans doute déjà pris fin, pas vraiment d'une manière que l'on pourrait juger équitable et juste. Alors faut-il prolonger la punition économique? Dans les 15 jours qui viennent, les 27 vont devoir le décider à l'unanimité. Et n'en déplaise à Viktor Orban, dans le rapport de force avec Poutine, qu'il s'agisse de l'Europe ou des États-Unis, qui aurait donc intérêt à abandonner les sanctions maintenant?
On n'arrête pas l'écho. Alexandra Ben Saïd sur France Inter.
Bienvenue dans le magazine qui parle de l'économie comme on la vit. L'équipe dont n'arrête pas l'écho vous salue, auditrice, auditeur, l'équipe c'est-à-dire celui qui prépare l'émission à mes côtés, Valentin Pérez, les réalisatrices Hélène Bizio et notre mathématicienne Céline Illa, Joseph Ascal, l'attaché de production, au mix Sofiane Aktib et à la technique ce matin c'est Laurent Baudouin qui nous accompagne. Au programme, le retour de Donald Trump, quel impact sur la planète éco? Nous allons arpenter le globe ce matin avec nos correspondants et nos reporters sur le terrain. Nous prendrons aussi le temps de discuter économie et démocratie avec le prix Nobel d'économie, Joseph Stiglitz. Interview de Joe Stiglitz vers 9h40. Tout cela avant de vous retrouver, Madame Vieux-Boulot. Bonjour Sandrine Foulon.
Bonjour Alexandra, bonjour tout le monde.
Sandrine, ce samedi, vous répondez à notre auditeur David.
Oui, David est un vélo-taffeur électrique, et grâce à lui, je vais vous parler de frais professionnels.
Oui, c'est toujours utile. On se retrouve juste avant les infos de 10h, alors Sandrine. D'abord, l'actu de la semaine, elle est débattue ce matin par un duo d'économistes, Éric Heyer. Hello Éric.
Bonjour Alexandra, bonjour tout le monde.
Vous êtes le directeur du département analyse et prévision de l'OFCE, et bonjour Patrick Artus.
Bonjour Alexandra.
Vous êtes conseiller économique chez Ossiam. Alors ce matin, nous allons parler d'un des chiffres les plus structurants de l'économie française, celui des naissances. On a appris cette semaine que 2024 a été l'année où la France a enregistré le plus faible nombre de bébés depuis 1946. Et nous voilà donc de plus en plus pressés par cette question. Retraite, santé, grand âge, est-ce que notre système de protection sociale peut tenir ?
L'INSEE vient de dévoiler son bilan 2024 et le nombre de naissances a encore diminué l'an dernier.
663 000 bébés ont vu le jour en 2024, une baisse liée à un recul de la fécondité. Les femmes font des enfants de plus en plus tard et elles en font moins.
Il y a eu plus de naissances que de décès, le nombre de décès a diminué.
Didier Breton, chercheur associé à l'Institut National d'Études Démographiques.
Et puis aussi, il y a un apport migratoire de la population, qui est le principal moteur aujourd'hui de la démographie française, ce sont les migrations. On reste un des pays où la fécondité est la plus élevée en Europe, 1,46 enfants par femme, en France 1,62, mais on est bien en dessous de ce seuil symbolique de 2.
Fertilité n'est pas fécondité.
Sylvie Leminet, responsable de l'unité des études démographiques et sociales de l'INSEE.
Alors là, ce qui est particulier, c'est que en 2024, la fécondité baisse pour les femmes les plus fécondes, donc notamment entre 30 et 34 ans, mais aussi entre 35 et 39 ans. Pour toutes les tranches d'âge, sauf les 40 à 50 ans, où la fécondité avait diminué pour la première fois l'année dernière, mais là, c'est reparti un petit peu à la hausse, mais la fécondité est très faible après 40 ans.
C'est ni une bonne ni une mauvaise nouvelle, c'est le choix des femmes, c'est le choix des couples. Je pense qu'il faut le respecter.
Sandrine Rousseau, députée Les Écologistes.
Il n'y a pas une injonction à faire des enfants, comme il n'y a pas une injonction à ne pas en faire. Ce taux de natalité est révélateur d'une inquiétude sur l'avenir. Je partage cette inquiétude sur l'avenir, véritablement.
Il y a aussi des projets familiaux qui sont contraints par un manque de place dans les logements, par des modes de garde qui sont devenus inaccessibles parce qu'on a sous-investi, parce qu'il n'y a pas assez de personnel.
Maxime Sbahi, économiste, expert associé à l'Institut Montaigne.
Par, il faut le dire aussi, un travail qui ne paye plus. Donc en fait, la jeunesse française manque aussi de moyens, vous voyez, d'espace, d'attention pour faire des enfants. Je ne pense pas que le désir d'enfant est en cause. Ce qu'il faut en fait, c'est ne pas encourager, mais faciliter au maximum.
Les politiques familiales, donc les politiques macro, marchent pas très bien parce qu'au fond, c'est des décisions microéconomiques et la micro marche très bien.
Emmanuel Combe, professeur d'économie, Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne.
Quand vous êtes une femme et que vous accédez à l'emploi, et notamment quand vous montez dans la hiérarchie, le coût d'opportunité d'avoir un enfant augmente. Si vous voulez vraiment influencer structurellement sur le taux de fécondité, paradoxalement, il faut rentrer un peu dans l'intimité, la répartition des rôles. Et ça, c'est pas une politique publique qui va imposer aux hommes, c'est l'éducation.
Patrick Artus, je me tourne vers vous. La dénatalité en France, est-ce que vous nous faites, et dans le monde d'ailleurs, c'est un phénomène mondial, est-ce que vous nous faites la photo?
Oui, c'est un phénomène mondial. Les seules régions du monde qui échappent aujourd'hui, c'est les pays très grosse majorité de population musulmane, et c'est l'Afrique. Il y a une baisse de la natalité même dans ces pays, mais elle reste extrêmement forte. Alors vous savez, on mesure le taux de fertilité, et donc c'est le nombre d'enfants qu'une femme aura dans sa vie. On est à 1,62 en France, mais on est à 1,5 en Allemagne, à 1,44 au Royaume-Uni, à 1,20 en Italie, en Espagne, 1,20 en Chine, et un peu plus d'1,6 aux États-Unis. Et le record du monde, dans le mauvais sens, c'est la Corée, 0,7.
Alors, dans le mauvais sens, j'ai entendu dans le ZAP que ça, c'est peut-être pas un débat économique,
oui,
ça se
débat
quand même.
Ça veut dire qu'il va falloir s'armer hors migration pour un recul de la population et un recul qui sera d'ailleurs plus fort de la population en âge de travailler que de la population totale. Et ça, c'est aussi une caractéristique importante. La population en âge de travailler diminue plus vite que la population totale grâce à l'allongement de l'espérance de vie. Alors juste deux, trois chiffres avant de passer la parole à Eric. Si on regarde juste la France, les plus de 60 ans dans la population totale, aujourd'hui c'est 27%, ça sera 35% de plus de 60 ans dans la population totale en 2070. Les plus de 85 ans dans la population totale, c'est 3% aujourd'hui, ça sera 8% en 2070. Et donc, ça pose un problème, évidemment, pour le système de retraite. Le nombre de cotisants par retraité, qui est de 1,7 aujourd'hui, va baisser à 1,4. Et deuxième problème, c'est pour la santé. Je suis très impressionné par les chiffres. La dépense de santé est monstrueusement croissante avec l'âge. Si vous prenez les 17-59 ans, en additionnant les dépenses hospitalières et les dépenses de médecine de ville, il y a un coût de la santé de 1 800 € par an en moyenne. Si vous prenez les 75-84 ans, c'est 6 400 €. Et les plus de 85 ans, c'est 8 400 €. Donc le vieillissement de la population, ça dégrade, ça accroît mécaniquement les dépenses
d'une
de santé.
D'une force qui vous semble assez phénoménale.
Et de façon phénoménale. Et c'est bien pire, en fait, que l'effet sur les systèmes de retraite, cet effet sur les dépenses de santé.
Ah, ça va être encore un plus gros sujet que les retraites. Éric Heyer.
Alors bon, je partage un grand nombre d'analyses, mais allez, on va essayer de revenir un tout petit peu en arrière. Donc sur, effectivement, le taux de fécondité, on est d'accord qu'il ne faut pas regarder ce que vous avez indiqué comme statistique, c'est-à-dire le nombre de naissances, c'est pas vraiment ça ce qui est important. Ce qui est important, c'est le taux de descendance finale, c'est à 45 ans, combien on aura fait d'enfants par femme. Et là, les dernières statistiques ne baissent pas. C'est en augmentation en France. Hein. On est en légère augmentation. C'est qu'il y a un effet dit de calendrier, c'est-à-dire qu'on retarde le moment où on fait des enfants. Et donc, ce n'est pas parce que l'indice conjoncturel de fécondité a baissé que le taux de descendance baisserait. Donc ça, c'est quand même assez important. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas ne pas regarder pourquoi l'indice conjoncturel baisse. Hein. Il y a des indicateurs, ça a été dit dans votre zap, sans doute l'inquiétude. La Covid a fait baisser l'indicateur conjoncturel. Pourquoi ? Parce qu'on s'est moins rencontrés pendant ces moments de confinement. En se rencontrant moins, on a fait moins de mariages, moins de Pax. Et on sait, du coup, qu'on fait moins d'enfants quand on n'est pas en mariage et en Pax. Et donc, ça peut remonter dans 3-4 ans, parce qu'il faut 3-4 ans, une fois qu'on s'est mis en couple, pour faire des enfants. Donc, quand on regarde les projections, il n'y a pas de baisse du taux de descendance. Ça, c'est quand même important.
Parce qu'on s'attache à ce taux de fécondité. On a tous en tête les deux enfants par
l'indicateur conjoncturel,
femme.
Alors qu'en fait, c'est exactement... Et on est à 2,07. Quand vous regardez le taux de descendance alors de la dernière génération, c'est celle qui, les femmes de 1979, parce qu'il faut qu'elles aient 45 ans, on est à 2,07 alors qu'on était à 2 il y a 5 ans.
Donc d'accord, là vous relativisez en augmentation, quand même la photo.
Et 2,07, bah, on voit bien qu'on renouvelle la génération, et ça c'est hors effet immigration. Donc du coup, c'est pas aussi inquiétant que ça. Et surtout, il faut rappeler, ça a été dit par Patrick, mais c'est extrêmement important, sur les 236 pays, je vais donner ça, la France est 105e, premier pays devant de développé, c'est-à-dire bien devant, vous voyez, l'Allemagne est 205e, vous voyez, très loin derrière, l'Italie, l'Espagne, ils sont s'effondrés. Et ça sera très important quand on va essayer de comprendre quelles sont les solutions, c'est que tous les pays développés ont le même problème, mais la France moins que tout le monde. Donc attention, il y aura une grosse concurrence à ce niveau-là. Donc ensuite, est-ce que ça fait des dérapages? Vous voyez, tout ça, c'est des statistiques qui ne bougent pas beaucoup. Hein. Vous voyez, et donc, quand on fait les projections à l'horizon 2070, est-ce que ça fait des dérapages sur les retraites, admettons, en France? Non. Vous voyez, le corps, comme l'Aging Report, c'est la Commission européenne, disent les dépenses de santé, malgré cela, d'accord, ne vont pas déraper, même seront légèrement en baisse en France.
Le corps, les dépenses de retraite.
Vous avez alors là, pour les retraites, pardon, okay. Oui. Pour les retraites, ça va baisser. Alors qu'en Italie, en Espagne, ça va exploser. En Espagne, ça va augmenter de 3,5 points. Donc ailleurs, vous voyez, ils ont moins anticipé ce phénomène pour les retraites. Nous, en France, on a l'impression que, déjà avec les réformes que l'on a mis en place, les dépenses de retraite, d'accord, ne vont pas augmenter dans l'avenir. En revanche, et là, Patrick a raison, c'est les dépenses de santé qui vont fortement augmenter. Et donc, effectivement, on met tout l'accent sur les dépenses de retraite. Or, en fait, les dépenses de retraite sont relativement stables, d'accord. S'il y a un déficit, bah, c'est parce que le financement s'effondre, oui, mais pas les dépenses. Et donc, vous voyez, c'est plutôt sur la santé. Mais la santé, c'est normal que ça augmente. Patrick l'a dit, en vieillissant, on dépend. Et surtout, le progrès technique. Le progrès technique, bah, vous voyez, c'est bien partout, mais pour la santé, c'est bien parce qu'on permet de vivre plus longtemps, mais ça coûte plus cher. Il faut l'accepter, et donc il faut accepter ces dépenses par tête de santé qui progressent plus vite que le PIB par tête, mais ça, il faut trouver aussi un financement.
Patrick Artus.
Oui, alors, ce qu'Éric évoque, c'est les scénarios de baisse du poids des retraites dans le PIB. Simplement, cette baisse est obtenue par le fait qu'il y a des gains de productivité et que les retraites ne profitent pas des gains de productivité. Or, on peut douter, en réalité, des scénarios sur la productivité. Pour avoir des gains de productivité, il faut moderniser son économie. Alors, on a une grosse incertitude, c'est l'intelligence artificielle. On ne va pas faire ici le débat sur est-ce que l'intelligence artificielle dopera ou non la productivité. Il y a des avis dans tous les sens. Mmh. Mais on peut regarder, par exemple, la robotisation de l'industrie. Et on voit que la France a une industrie extrêmement peu robotisée. Si vous regardez le nombre de robots pour 10 000 salariés, il est à 180 en France. Il est à au-dessus de 400 en Allemagne, il est à 1000 en Corée, il est à 400 au Japon. Et donc, si on ne robotise pas, si on ne modernise pas l'industrie, on va rester avec une productivité stagnante. La productivité a baissé hein, depuis 2019, et on ne bénéficiera pas de cette baisse des dépenses de retraite, parce qu'elle est liée simplement au fait que le niveau de vie des retraités baisse par rapport au niveau des salariés, mais ça suppose qu'on fasse des gains de productivité. Et alors bon, et alors ensuite, si on regarde les solutions. Effectivement, je suis d'accord avec Eric, le problème, c'est essentiellement les dépenses de santé, les dépenses liées au grand âge, les dépenses de dépendance.
Hein. Et là, Eric dit, il faut accepter ces dépenses, on n'a pas le choix, il faut trouver des recettes.
Bon, alors, comment est-ce qu'on fait ? On refait des gains de productivité. Bon, alors moi, j'ai un doute et je ne vois pas aujourd'hui, on n'a pas un horizon de 30 ans, mais on ne voit pas l'économie française qu'on fait un gain de productivité. Et les deux autres solutions, c'est augmenter le taux de cotisation et avoir recours à une immigration importante qui améliore les ratios démographiques.
Éric Herrière, donc trois pistes sur la table, productivité, Patrick n'y croit pas, immigration, robotisation.
D'accord. Alors, sur les gains de productivité, en un mot, depuis maintenant 6 trimestres, okay, les gains de productivité repartent très fortement en France. D'accord. On est sur plus de 0,5 par trimestre, donc on est sur des rythmes de plus de 2%.
Pourquoi ?
En rythme annualisé. Bon, voilà, c'est un rattrapage. Et là, on voit qu'aujourd'hui, ça fait 6 trimestres, en tout cas, que les gains de productivité ont un rythme de 2% en rythme annualisé. Donc, pourquoi pas ? Vous voyez, moi, je pense que ce n'est pas la fin des gains de productivité. La messe n'est pas encore dite, mais il faudra en faire une émission là-dessus. Je pense que, ce qu'a dit Patrick, c'est juste. C'est-à-dire qu'il y a un vieillissement, et un vieillissement dans le très haut de l'âge, c'est-à-dire au-delà de 75 ans. D'accord ? Ce n'est pas la population 65-75 qui va augmenter très fortement. On est aujourd'hui à 7 millions, on sera en 2070 à 8 millions, mais c'est plutôt les au-delà de 75 qui passent de 7 millions aujourd'hui à plus de 14 millions demain. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? C'est une politique du grand âge qu'il faut faire. Il faut arrêter le bricolage que l'on fait aujourd'hui avec des jours fériés, que l'on met de jours de solidarité, il n'y en aura pas assez. Et c'est pas par des taux de cotisation qu'il faut financer tout cela, mais c'est par de l'impôt. C'est-à-dire qu'il n'est pas normal que ce soit que les salariés qui payent pour le grand âge. Tout le monde doit être concerné, et donc c'est plutôt par de l'impôt qu'il faut faire, y compris sur les retraités qui ont 65 ans et qui, un jour, bénéficieront de cela. Et il faut remettre à plat le système du grand âge, donc c'est une loi grand âge qu'il faut faire. Là, aujourd'hui, le système avec les EHPAD qui coûtent très cher, qui sont en déficit, 66% des EHPAD aujourd'hui sont en déficit. Il faut remettre tout ça à plat, autoriser les seniors à rester chez eux lorsqu'ils le peuvent, sinon mettre des unités qui sont plus à leur disposition.
Ça coûte ?
Mais oui, ça va coûter cher. Bien entendu que ça va coûter cher.
Mais c'est quoi ? C'est plusieurs milliards, dizaines de milliards ? On est sur quoi ?
Mais c'est pour ça qu'il faut dire aux Français, il y a un nouveau risque. Cette cinquième branche de la dépendance, il faut vraiment s'y attaquer, mais il faut mettre des moyens, et pas des moyens avec des jours de solidarité, et pas par des cotisations, mais bien par de l'impôt. Ensuite, oui, l'immigration, c'est souhaitable. D'accord ? Il faut le dire, l'immigration aujourd'hui. Mais attention, il y aura une très forte concurrence, parce que, encore une fois, tous les pays sont dans cette situation-là. Et la France est la mieux lotie de ce point de vue-là.
Si je vous donne la parole pendant 10 secondes, Patrick Artus, plus d'impôts pour la dépendance, le grand âge, oui ou non ? 10 secondes.
Ben, non, je crois que l'immigration, les immigrés en France, en moyenne, créent deux fois plus d'entreprises que les Français de souche et sont plus qualifiés que les Français de souche. Donc, un recours accru à l'immigration qualifiée est aussi une piste qui est très intéressante.
Patrick Artus et Éric Herrière, ils ont fait le débat ce samedi dans N'arrête pas l'écho.
Et déindustrialiseront
un pays. Unemployment and lower job
creation.
Maintenant qu'on y a cette économie.
9h31 sur France Inter. Dans une dizaine de minutes, notre invité, ce sera le prix Nobel Joseph Stiglitz. Son nouveau livre s'appelle « Les routes de la liberté, une réflexion sur la démocratie américaine ». Mais d'abord, nous allons regarder ensemble ces pays qui se préparent à la guerre commerciale avec l'Amérique de Donald Trump. Avec d'abord notre correspondante au Canada, c'est Pascal Guéricola. Bonjour Pascal.
Bonjour Alexandra. Bonjour tout le monde.
Et avec l'envoyé spécial permanent de France Inter en Chine, salut, ni hao, Sébastien Berriot.
Oui, bonjour Alexandra, bonjour à tous, ni hao.
Alors en campagne, Donald Trump a annoncé vouloir imposer jusqu'à 60%, voire 100% de droits de douane sur les produits chinois. Sébastien, chez vous, parmi les chefs d'entreprise, c'est le branle-bas de combat, vous l'avez bien constaté sur le terrain.
Je me suis rendu dans la province du Fujian, dans le sud de la Chine, dans une petite usine qui fabrique du dentifrice. 70% de la production ici part vers les États-Unis. Alors lorsque je suis arrivé sur place, j'ai remarqué que les machines tournaient à plein régime. Il y avait un stock énorme qui était en cours d'emballage dans les entrepôts. Le patron m'a expliqué, ben oui, on exporte tout ce qu'on peut en ce moment avant l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche, parce qu'après, c'est une vraie période d'incertitude qui va s'ouvrir. Si les droits de douane arrivent à 60%, l'entreprise va devoir augmenter le prix de son dentifrice, et dans les rayons des supermarchés américains, ça va évidemment coincer. Le consommateur américain risque tout simplement d'abandonner le dentifrice du Fujian pour se brosser les dents tous les matins. Le patron parle déjà de possibles licenciements.
Mais est-ce que toutes les entreprises chinoises sont menacées, Sébastien ?
Alors pas forcément, hein, parce que dans certains secteurs, les Chinois sont les seuls au monde à pouvoir répondre à un marché aussi important que celui des États-Unis. Je suis allé par exemple dans une usine dans la ville d'Iwu qui produit pour les États-Unis chaque année des millions de boules de Noël. Ici, on n'est pas trop inquiet. On considère que même si le prix augmente, les Américains continueront d'acheter les boules de Noël fabriquées à Iwu.
Merci Sébastien Berrieux avec nous de Pékin. Alors de l'autre côté du Pacifique, sur le continent américain, au Canada, nous sommes maintenant chez vous, Pascal Guéricola. D'autres patrons attendent aussi de savoir si, comme il l'a clamé, Donald Trump va imposer 25% de droits de douane. Les premiers ministres des provinces se sont encore réunis à ce sujet mercredi dernier avec le chef du gouvernement. Pascal, les politiques canadiens tentent tout simplement de trouver la bonne stratégie face à Washington.
Effectivement, et même si parmi eux on retrouve des adversaires politiques, la très grande majorité se veut unie face à ce qu'ils considèrent comme une menace existentielle pour le Canada. Un pays, je vous rappelle, où les trois quarts des exportations partent aux États-Unis. Alors pour l'instant, aucune mesure de rétorsion n'est exclue pour contrer les possibles 25% de droits douaniers, y compris de taxer l'électricité et surtout le pétrole dont est friand notre voisin du Sud. Alors pendant que les élus du Canada discutent et se rendent fréquemment aux États-Unis pour trouver des appuis là-bas, les entreprises agissent aussi. Selon un récent sondage de l'Association des exportateurs et manufacturiers du Québec, presque un tiers des entrepreneurs accélèrent leurs exportations vers le sud de la frontière avant le 20 janvier. Beaucoup mettent sur pause également leurs investissements afin de voir venir. Et un certain nombre envisagent sérieusement de délocaliser leur production aux États-Unis.
Pascal Guéricola avec nous de Québec. Et c'est le moment de passer la frontière. Nous voici à présent aux États-Unis, où Donald Trump a promis l'augmentation des droits de douane, on vient d'en parler. Mais il y a aussi l'expulsion de millions de migrants en situation irrégulière, l'allègement des réglementations et puis la promesse number one, la baisse des prix. Alors comment compte-t-il faire pour améliorer le pouvoir d'achat ? Trump espère en particulier des résultats de sa politique énergétique. L'idée, c'est d'extraire toujours plus de gaz et de pétrole. Voilà pourquoi ce matin, notre reportage commence au Texas, le plus important État producteur du pays. Et c'est là que nous retrouvons notre reporter, Faustine Calmel.
Je vous emmène dans le quartier des affaires à Houston. On est entre les tours des grandes compagnies pétrolières, Total Energy d'un côté, Chevron de l'autre. C'est l'heure à laquelle les salariés arrivent au travail. Et ils sont, on peut le dire, optimistes avec l'arrivée très prochaine de Donald Trump à la Maison-Blanche.
Mon nom est Sterling Schmutz. Nous fournissons des outils de contrôle pour les turbomachines, les turbocompresseurs que l'on trouve sur les plateformes pétrolières ou dans les raffineries. Eh bien, notre espoir, c'est que de nombreux emplois reviennent et que la stagnation cesse. Il y avait trop de réglementations. Alors maintenant que nous arrivons à un nouveau cycle Trump, une nouvelle présidence, nous espérons que beaucoup de choses seront dérégulées et que les affaires pourront à nouveau aller de l'avant. Il y a de nombreuses ressources et ceux qui promeuvent le 100% vert, ils utilisent les subventions de l'État et pas le marché naturel pour continuer à avancer.
Comme Sterling Schmutz, ce salarié de l'industrie pétrolière, ils sont nombreux à attendre l'assouplissement des réglementations pro-climat mises en place par l'administration de Joe Biden. Donald Trump, lui, a une priorité, faire baisser les factures des Américains. Pour celles qui concernent l'énergie, il a promis durant la campagne de les diviser au moins par deux.
Je prends cet engagement devant le peuple américain. Je mettrai fin immédiatement à l'inflation, cette crise dévastatrice. Je baisserai les taux d'intérêt et je ferai diminuer les prix de l'énergie. Nous allons forer, bébé, forer.
À Houston, on retrouve Faustine Calmel. Elle fait la rencontre de Paul Coste. La trentaine, costume cravate, smartphone en main, il est le PDG de l'entreprise Cost Energy, un consortium d'investisseurs dans le gaz et le pétrole.
Vous savez, je pense vraiment que la nouvelle administration sera plus indulgente du point de vue des réglementations. Ces dernières années, par exemple, quand on allait au Nouveau-Mexique pour extraire du gaz et du pétrole, c'était très compliqué. Est toujours très lent avant d'avoir les autorisations et de pouvoir travailler en respectant les réglementations du gouvernement. Maintenant, ça devient déjà plus facile. Les choses se simplifient, on voit déjà les effets d'une administration plus amicale avec nous. Vous savez, pour assurer nos investissements, avant, ils avaient prévu que les cautions sur les actifs pétroliers et gaziers allaient encore augmenter. Mais en fait, avant même le retour de Trump, nous avons reçu une note du gouvernement disant que finalement, ça n'aurait pas lieu. En plus de ça, c'était très difficile d'entrer sur le marché au Nouveau-Mexique quand on était un nouvel opérateur. Désormais, je ne serais pas surpris que d'autres entreprises puissent plus facilement faire des affaires dans le pétrole, au Nouveau-Mexique, au Texas et ailleurs dans le pays grâce à cette nouvelle administration.
Le monde des énergies fossiles n'est pas le seul à se réjouir du retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. L'automobile, l'armement, la tech, les crypto-actifs ont fait part de leur enthousiasme. Lorsque le président élu est allé sonner la cloche de Wall Street mi-décembre, les financiers n'ont pas non plus lésiné sur les applaudissements. Tous espèrent des politiques favorables aux entreprises qui feront encore monter les cours de bourse. Nous voici donc maintenant à New York. C'est au cœur de Manhattan, sur la 48e rue, dans le quartier des affaires, tout près du Rockefeller Center, que se trouvent les bureaux de la banque d'affaires Galileo Global Advisors. Notre reporter Loïc Loury a rendez-vous avec son président, Georges Hugeux. C'est l'ancien numéro 2 de Wall Street.
Si vous résumiez le sentiment général dans le monde dans lequel vous évoluez, de l'économie, des investisseurs, de la finance, donc j'ai l'impression que certains ont répondu plutôt favorablement à l'arrivée de Donald Trump.
Alors, je dirais que je fais la différence entre les traders et les investisseurs. Les traders, c'est l'enthousiasme, ça veut dire quoi ? Que la bourse va monter demain ou après-demain. Par contre, si je regarde les tendances à long terme, l'attentisme est la seule solution. Il n'est pas nécessairement important de désinvestir, mais ce n'est pas le moment d'entrer dans le marché qui est aujourd'hui extrêmement cher.
Et c'est un sentiment partagé ?
C'est un sentiment partagé par les investisseurs, les compagnies d'assurance et les gens, les fonds de pension, etc., qui, eux, gèrent des économies sur le long terme. Mais la voix que vous entendez et qui est particulièrement sonore à Wall Street, et j'en sais quelque chose, c'est la voix des traders. Et celle-là, c'est simplement l'excitation du court terme. Il faut reconnaître que depuis quelques jours, ce n'est plus aussi optimiste et que les questions de fond commencent à se poser. Et on va voir effectivement apparaître les résultats des entreprises pour l'année et ce que vont représenter les perspectives pour 2025. Donc, en matière d'investissement, étant donné l'incertitude dans laquelle on est, il est difficile de voir dans Donald Trump quelqu'un qui va pouvoir changer la donne. Il va certainement travailler sur la fiscalité, mais ce n'est pas suffisant. Il parle beaucoup. On va voir ce qu'il va pouvoir réaliser. Mon sentiment, c'est que beaucoup des menaces que l'on a entendues de M. Trump ne se réaliseront jamais, à commencer par le Groenland et le Canada.
Mais que se passera-t-il pour la seconde grande promesse de Donald Trump, la lutte contre l'immigration illégale ? Pour ce nouveau mandat, il a annoncé lancer ce qu'il appelle la plus grande opération d'expulsion de masse, en ayant recours à l'armée si nécessaire.
Hi, nice to meet you.
You're Kevin.
Kevin Shi est chercheur spécialiste de l'emploi et de l'immigration à l'Université de Californie, à Riverside. Il répond au micro d'Olivier Poujade.
Est-ce qu'il peut apporter et créer du travail aux États-Unis ? Créer des emplois ?
Cette expulsion massive de dizaines de millions de personnes, si elle se concrétisait, supprimera mécaniquement de nombreux emplois.
Overnight.
Et les États-Unis ne pourront pas les remplacer du jour au lendemain. À court terme, cela aura un effet direct et important sur les secteurs et les entreprises qui emploient habituellement ces travailleurs immigrés et illégaux qui seraient donc expulsés. Vous savez, de mon point de vue d'économiste, plusieurs propositions de Trump sont inquiétantes. Ce qui m'inquiète surtout, c'est cette idée de supprimer l'impôt sur le revenu et de financer les politiques publiques en se reposant uniquement sur les droits de douane. Mais les droits de douane, c'est souvent les consommateurs eux-mêmes qui finissent par les payer. Et l'inflation pourrait rebondir.
Devant le Sénat américain, jeudi, Scott Bessent, le futur secrétaire au Trésor, a pourtant assuré que Donald Trump mènera le pays vers un nouvel âge d'or économique en créant des emplois, de la richesse et de la prospérité.
Je suis Thomas Philippon, je suis professeur de finance et d'économie à New York University.
Les Américains peuvent-ils y croire ?
C'est quand même le petit livre républicain habituel, à part sur la rhétorique et les sorties dans les médias. Mais pour le reste, c'était la politique républicaine standard. La deuxième administration Trump, il aura quand même beaucoup plus les coudées franches, et donc on peut s'attendre à des aspects plus trumpiens de la politique économique. Je pense que sa priorité, ça sera certainement... L'inflation, ça c'est sûr, mais je pense que sa priorité sera d'afficher des résultats très forts, et en tout cas des symboles forts sur l'immigration. L'économie américaine, elle marche très bien, au point de vue macroéconomique, pour des raisons qui n'ont pas grand-chose à voir avec Trump ou Biden d'une certaine manière. Donc je pense que là-dessus, les fondamentaux vont continuer. En gros, les fondamentaux, c'est que la productivité augmente aux États-Unis de autour de plus que 2 points par an, et l'Europe, c'est moins de 1. Et donc ça, c'est une différence colossale. Le problème de base, si on compare les États-Unis et l'Europe, c'est le prix de l'énergie. La différence est quand même très 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 forte maintenant, et ça se voit sur les performances industrielles et l'innovation. Avec l'écosystème entreprise et université. Je pense que c'est quand même ça qui reste les deux points majeurs. Et là-dessus, je ne pense pas qu'il y aura une différence fondamentale avec ce qu'on avait avant.
Inflation, immigration, les promesses de Donald Trump, bientôt confrontées à la réalité. C'était le reportage de Faustine Calmel, Loïc Loury et Olivier Poujade.
France Inter, on n'arrête pas l'écho, Alexandra Ben Saïd.
Et ce matin, l'invité d'On n'arrête pas l'écho est un prix Nobel américain, l'ancien président du Conseil économique de Bill Clinton. Bonjour et bienvenue, Joseph Stiglitz.
Nice to be here.
C'est un plaisir d'être avec vous.
Vous avez vu passer plusieurs présidents des États-Unis. Lundi, Donald Trump s'assiera de nouveau dans le bureau ovale. Quel est votre sentiment ?
Very, very disappointed.
Très, très déçu. Très, très inquiet, déçu que les Américains, après avoir vu ce qui s'est passé pendant son premier mandat, après avoir vu son refus de soutenir le transfert pacifique du pouvoir, l'ont élu. Je suis inquiet pour l'avenir de la démocratie américaine, inquiet pour l'état de droit au niveau national, inquiet pour l'état de droit au niveau international.
Mais à propos de l'économie, là vous parlez de la démocratie, mais à propos de l'économie, pour les Américains, pour les ménages, les entreprises, est-ce que c'est une bonne nouvelle, est-ce que c'est une mauvaise nouvelle, ou est-ce que de toute façon, l'économie américaine n'en sera pas beaucoup changée ?
Bad news.
Je crois que c'est une mauvaise nouvelle. C'est une mauvaise nouvelle à court terme et une mauvaise nouvelle à long terme. À court terme, notre économie sera affectée par les droits de douane qu'il va imposer. Il y aura peut-être des pénuries de main-d'œuvre en raison de sa politique migratoire. Les marchés financiers risquent d'être perturbés par la façon dont il prévoit de s'endetter lourdement pour financer ces réductions d'impôts en faveur des milliardaires. Il pourrait y avoir un blocage du gouvernement parce qu'il y a un groupe radical du parti extrémiste qui dit qu'ils ne permettront pas un déficit plus important. Nous ne relèverons pas le plafond de la dette nationale. Et il n'est probablement pas bien connu que la secrétaire au Trésor des États-Unis, Janet Yellen, a annoncé que juste au cours de cette semaine, au moment de l'investiture de Trump à la présidence, les États-Unis atteindront un plafond de dette. Et si ça ne change pas, nous aurons une crise. Voilà pour le court terme. À long terme, le fait est qu'il donne plus de latitude aux monopoleurs, qu'il autorise la déréglementation, il poussera à la déréglementation, ce qui sera mauvais pour nos marchés financiers. Ce qui permettra aux entreprises d'adopter un comportement plus prédateur en profitant de leurs consommateurs. Tout cela est donc une mauvaise nouvelle pour les Américains ordinaires.
Dans les promesses de Donald Trump, vous avez raison, il y a cette idée de dérégulation, moins de contraintes pour les citoyens, c'est le néolibéralisme, et la notion est au cœur de votre dernier livre, ça s'appelle « Les routes de la liberté ». C'est le capitalisme en fait, cette dérégulation, mais avec moins d'impôts, moins de lois, moins de règles, moins d'États, et ça parle à beaucoup, y compris en Europe. Pourquoi plus précisément, Joseph Stiglitz, est-ce que selon vous c'est un mauvais chemin ?
Well, we live in a... Nous vivons dans une société intégrée. Et l'un des principaux thèmes de mon livre est illustré par la phrase d'Isaiah Berlin, un grand philosophe d'Oxford, qui a déclaré que la liberté pour les loups a souvent signifié la mort pour les moutons. Les entreprises peuvent réaliser des bénéfices de deux manières. L'une d'entre elles consiste à fabriquer de meilleurs produits que les gens veulent à moindre coût. L'autre consiste à trouver des meilleurs moyens d'exploiter les individus en profitant de leur pouvoir de marché et de leur vulnérabilité. Malheureusement, il est plus facile de faire de l'argent dans l'exploitation que dans la mise au point de meilleurs produits. Sous Trump, nous aurons de plus en plus de pillages, de plus en plus d'exploitation et de moins en moins de créativité, de moins en moins d'innovation réelle.
Dans son discours d'adieu à la Maison-Blanche mercredi, Joe Biden s'est inquiété de voir l'Amérique tomber aux mains d'une oligarchie, c'est-à-dire d'un petit groupe de personnes. De qui parle-t-il plus précisément ?
Il parlait de Musk, de milliardaires comme Zuckerberg. Beaucoup de milliardaires sont venus et faire des génuflexions devant lui. Mais c'est pire que ça. Les oligarques qui l'ont aidé à se faire élire incluent les compagnies d'énergie fossile qui lui ont donné de l'argent et en retour, il leur donnera la possibilité de forer, aller fort, chérie, comme il l'a dit, de polluer l'atmosphère. Il s'agit donc d'un compromis ici. La liberté de polluer contre la liberté des citoyens ordinaires de vivre dans un environnement sans pollution. Les banques ont fait la même chose. Elles vont donc avoir le droit de faire des prêts usuraires, de faire prendre des risques excessifs. Nous voulons le droit de ne pas avoir à les renflouer et éviter une nouvelle crise financière. Quel droit est le plus important ? Il parle d'un ensemble de libertés. Et dans mon livre, j'essaie de faire valoir que nous devons avoir une vision plus large de ce que cela signifie. Comment les libertés d'un groupe peuvent réellement empiéter sur celles d'un autre ?
Et cependant, Joseph Stiglitz, les Américains de toute classe sociale, malgré tout ce que vous écrivez, les Américains de toute classe sociale votent pour aller dans cette direction-là, votent pour Donald Trump. Comment est-ce que vous l'expliquez ?
Les Américains ne vont pas très bien. Les Américains ordinaires, les chiffres du PIB. Tout le monde, tous les Européens regardent les PIB et se disent « Ah, l'Amérique est formidable ». Les Américains ne sont pas de cet avis. L'espérance de vie aux États-Unis est en déclin. Elle est plus faible que dans les autres pays avancés. Les enquêtes sur le bien-être montrent que le sentiment du bien-être des Américains est inférieur à celui de la plupart des autres pays d'Europe. La vie quotidienne aux États-Unis est une corvée. Obtenir des soins de santé, une assurance maladie, chaque jour, c'est une corvée. Les Américains ne se sentent donc pas prospère. Le problème, c'est que Trump leur a dit « Je suis un agent du changement. Je suis différent des gens d'avant. » Malheureusement, ce changement ne se fera pas dans le bon sens.
Il y a des chapitres corrosifs sur les médias et les réseaux sociaux aussi dans votre livre. Est-ce que vous appelez le marché des idées ? Mark Zuckerberg, le patron de Facebook, vient d'annoncer qu'il abandonne le fact-checking. Qu'en pensez-vous ?
Je pense que c'est terrible. La liberté d'expression est importante, mais nous avons toujours circonscrit la liberté d'expression. On ne peut pas crier au feu dans un théâtre bondé, on ne peut pas se livrer à la diffamation et à la calomnie, on n'a pas le droit de se livrer à la pédopornographie. Nous faisons donc des choix quant aux limites. Le modèle de Facebook et des autres médias sociaux, c'est l'engagement par l'enragement. L'engagement signifie plus d'argent de la publicité, et l'indignation, l'enragement est synonyme de polarisation accrue. Leur modèle d'entreprise est donc contraire aux intérêts de notre société. Les nouvelles technologies, les médias sociaux exigent de nouvelles limites, ce qui signifie qu'il faut des réglementations. L'Europe a été le chef de file dans ce domaine.
Mark Zuckerberg, justement, espère que Donald Trump fasse pression sur l'Europe pour qu'elle assouplisse sa réglementation très contraignante sur les réseaux sociaux. Que recommanderiez-vous à Bruxelles ?
Je dirais que l'Europe doit défendre ses valeurs. L'Amérique a peut-être adopté pendant un certain temps la valeur du matérialisme débridé, sans se soucier du bien-être de la société. C'est regrettable. Et ceux qui en Amérique se battent contre cela vont le faire, mais votre passé est fait de valeurs.
Dernière question, Joseph Stiglitz. Ce livre, vous l'avez publié aux États-Unis, c'était avant les élections, et vous écrivez, vous croyez en la capacité des gens à faire des compromis, à se mettre d'accord sur les valeurs, vous croyez en la jeunesse aussi. Aujourd'hui, j'entends dans cette interview que vous n'êtes plus aussi optimiste.
Je ne suis plus aussi optimiste. Je pense que Trump va échouer. Je pense que l'économie ne se portera bien. Bon, elle va faire, elle ira bien pendant un certain temps. Le marché boursier peut se porter bien parce que les bénéfices peuvent augmenter en raison de la stagnation des salaires ou des réductions d'impôts accordées aux milliardaires et aux entreprises. Il faut donc examiner les indicateurs avec soin. À long terme, ce qui est important, ce sont les idées, les universités, la recherche. Le Parti républicain et Trump s'attaquent à notre liberté académique fondamentale, à nos universités. Il est donc difficile de voir comment, à long terme, ce sera bon pour les États-Unis ou pour le monde. Mais ce qui m'inquiète, c'est que lorsque les choses iront mal, et empireront encore, il va évidemment dire que ce sont les ennemis de l'intérieur. Et il renouvellera ses attaques contre les universités, les institutions existantes, celles qui font progresser la démocratie. La lueur d'espoir, c'est qu'un nombre suffisant d'Américains se rendront compte qu'il s'agit vraiment d'une voie vers la servitude, d'une voie vers l'autoritarisme. Cela va tellement à l'encontre de nos valeurs. Et j'espère que mon livre, qui présente une alternative, qui est la voie de la liberté et la voie de la prospérité partagée, il y a des alternatives. Et nous devons commencer à expliquer ces alternatives, à faire comprendre aux Américains les risques que nous prenons avec la voie Trump. Et qu'il existe une alternative qui offre l'espoir d'une société meilleure.
Le livre s'appelle « Les routes de la liberté » aux éditions « Les liens qui libèrent ». Thank you, merci beaucoup Joseph Stiglitz d'avoir accepté l'invitation d'On n'arrête pas l'écho.
Thank you. Merci.
Et un remerciement tout spécial bien sûr à Michel Zlotowski pour sa traduction de l'interview de Joseph Stiglitz.
On n'arrête pas l'écho. Sur France Inter.
Sandrine Foulon, David vous a écrit, il est auto-entrepreneur, il compte s'acheter un vélo électrique pour son plaisir, mais aussi pour ses déplacements de boulot. Ses frais peuvent-ils être déductibles des impôts, vous demande-t-il ?
Absolument, David. Comme pour une voiture, si vous achetez un vélo électrique que vous comptez aussi utiliser pour vos déplacements professionnels, vous devrez immobiliser cette acquisition, c'est-à-dire l'intégrer dans votre patrimoine professionnel. Vous pourrez ensuite l'amortir pendant un certain nombre d'années et déduire ses charges de vos impôts. Si vous étiez salarié ou si vous aviez un véhicule motorisé, vous pourriez bénéficier du forfait kilométrique. Ce n'est pas encore le cas avec un vélo, même électrique, mais les frais d'entretien ou de recharge de batterie sont déductibles au prorata de votre utilisation professionnelle. En tout cas, sachez David que tout le monde n'est pas aussi scrupuleux que vous en matière de déclaration de dépenses personnelles.
Sandrine, vous voulez dire qu'il y a parfois une confusion entre les frais personnels et professionnels sur la feuille d'impôt ?
Oui, on peut le dire comme ça. Un chercheur de la Paris School of Economics, David Leit, vient de confirmer ce qu'on savait déjà. De nombreux chefs d'entreprise utilisent leurs dépenses privées, d'hôtels, de restaurants, d'essence, pour payer moins d'impôts. Il a étudié un panel de 30 000 Portugais qui sont passés du statut d'employé à celui de chef d'entreprise, souvent propriétaire de leur société. Eh bien, étonnamment, un mois après ce changement, leurs dépenses chutent brusquement de 19% et de plus d'un tiers un an après. Ces patrons ne deviennent pas subitement plus économes, ils ont juste tendance à utiliser la carte bleue de l'entreprise pour leur petit plaisir. C'est pareil pour les courses faites par leurs conjoints, elles baissent de 12% un an plus tard. Ne croyons pas que ce soit un travers typiquement portugais. Les mécanismes sont les mêmes en France. Déclarer des dépenses personnelles en frais professionnels permet d'éviter de payer la TVA sur les biens de consommation. Et plus les coûts de l'entreprise sont artificiellement gonflés, moins les bénéfices sont élevés, ce qui réduit l'impôt sur les sociétés. Un patron qui ne paie pas avec son salaire, mais directement avec l'argent de la boîte, s'exonère également de l'impôt sur les dividendes. Le chercheur David Leit estime qu'une partie seulement de ces stratégies fiscales ont déjà coûté 1% de PIB au Portugal en 2019. Ce pourrait être bien plus. Et encore une fois, la démonstration vaut pour la France, car à Paris comme à Lisbonne, il est bien difficile de savoir si un plein d'essence a servi pour aller signer un contrat ou pour partir en week-end avec des amis.
Sandrine Foulon, ma vie au boulot.